Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes à la découverte des Pyrénées-Orientales, encore pendant 10 minutes jusqu'à 17h. Tout à l'heure, le voyage sera encore plus extraordinaire puisque nous irons en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là, accrochez-vous, c'est un des plus beaux voyages, des plus extraordinaires voyages qu'on puisse faire. Là, pour l'heure, nous sommes donc au pied des Pyrénées, à
la frontière espagnole,
à côté Méditerranée. Mm-hmm. Et c'est une région magnifique.
Eh bien écoutez, je vais vous reparler des plages. On a parlé des plages de la mer du Nord il y a quelques jours, qui sont déjà très belles. Ben, celles des Pyrénées-Orientales, franchement, elles valent également le détour et leur pesant d'or. Il y en a une en particulier que je peux considérer comme mon petit coin de paradis. Elle s'appelle la plage du Racou, à Argelès-sur-Mer. Racou, en catalan, ça veut dire le petit coin, le recoin. Donc déjà, c'est plutôt bon signe. Ouais. Et dans cette plage du Racou, j'ai vraiment l'impression d'être au bout du monde. Ah, et pourtant, on est dans une station balnéaire extrêmement connue, Argelès-sur-Mer, mais elle est un peu à l'écart, elle n'est pas très connue. C'est un tuyau que m'ont donné les locaux, donc je suis allé sur cette plage-là.
Maintenant, c'est foutu. Hein.
Non, maintenant, c'est un petit peu foutu, je pense qu'on va m'en vouloir sur place, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller parce que tout y est plus doux, tout y est plus lent, et même en pleine saison, on vit complètement au ralenti. Et il y a une particularité sur cette plage-là, c'est pas simplement une belle plage avec du beau sable, ouais. Une mer à 24 degrés comme c'est le cas actuellement, c'est que les maisonnettes qui sont en retrait de la plage, elles sont ensablées, c'est-à-dire la plage gagne même le petit village de pêcheurs qui s'appelle le Racou. Les rues sont en sable, donc on se balade pieds nus. Donc si vous louez un gîte là, vous serez carrément ce qu'on appelle vraiment les pieds dans le sable.
Mais il y a pas de voiture. Il y a du sable dans les maisons.
Alors juste à côté, ça va vraiment lécher juste l'entrée de la maison, c'est assez spectaculaire. Et donc on se balade pieds nus. Donc c'est vraiment l'ambiance vacances comme on peut la rêver.
Vous sortez de chez vous, vous êtes les pieds dans le sable.
Vous êtes les pieds, littéralement les pieds dans le sable. Voilà. Et il y a aussi une autre particularité sur cette plage du Racou que j'aime beaucoup, c'est là que les Pyrénées s'arrêtent, enfin tombent dans la mer. C'est vraiment sur ce point-là, au Racou, que les Pyrénées terminent leur course au massif des Albères. Elles terminent leur course dans la Méditerranée.
Ça doit être chouette.
Donc double effet plaisir sur cette plage du Racou.
Pourquoi vous avez mis 24 degrés sur votre fiche ?
Je l'ai mis parce que c'est la température que l'on m'a transmise ce matin. Voilà, l'eau est à 24 degrés en ce moment où je vous parle.
Vérifiez.
Pas mal, non, vérifiez. J'ai voulu vérifier quand même.
24 degrés.
C'est ça. Il fait 24 degrés. L'eau est à 24 degrés actuellement à la plage du Racou.
Bon allez, vous avez d'autres petites pépites ?
Ah, il y a l'Anse de Poly. Ça, je sais que les Catalans adorent. C'est près de Port-Vendres. C'est pas très loin d'Argelès. Je l'aime beaucoup aussi celle-là parce que c'est à la fois une plage, donc un site naturel de toute beauté, et c'est aussi un site historique. Donc il y a une histoire très forte qui s'est passée là, et vous allez comprendre pourquoi aussi ça me touche. C'est un ancien site industriel qui a fait travailler 400 personnes sur la plage. Hein. C'était une ancienne dynamiterie. On y fabriquait des explosifs.
Une dynamiterie.
Oui, c'était l'un des plus gros employeurs du département jusque dans les années 60. C'est une usine qui a fonctionné pendant 110 ans. Ensuite, elle s'est arrêtée parce qu'on est passé à d'autres activités. Et une partie des bâtiments a été sauvegardée, préservée, restaurée et ouverte au public. Donc vous avez à la fois le côté historique et le côté plage à l'Anse des Poly.
Mais vous savez que c'est aussi une région où on trouve d'anciennes mines de fer, qui étaient une richesse de la région, très importante là-bas.
Tout à fait. Je précise quand même aussi que sur cette plage-là, il n'y a pas de bistrot, pas de commerce, c'est resté sauvage, c'est vraiment les plages comme on peut les rêver. Voilà. C'est aussi un autre avantage.
Donc en fait, c'est industriel les plages.
Il y a des bâtiments industriels qui vous plongent carrément dans cette ambiance des années 50. Vous savez, les bâtiments tout en longueur avec des toits en V. Et en même temps, vous avez trois belles plages sur l'Anse des Poly. Magnifique. Attends. Et le site est vraiment très bien aménagé. Il est classé. Bien sûr, le site est classé, je précise. Donc, vous n'avez aucun risque d'avoir des vendeurs ambulants, etc. On est vraiment tranquille sur cette plage.
Et si on veut se balader un petit peu à l'intérieur des terres, alors ?
Ah, là, j'ai quelque chose pour vous, Philippe. Le train jaune de Cerdagne. Comment ne pas parler de ce train ?
On
l'a surnommé le Canari, exactement. Ouais. En présente sa couleur jaune. Alors, évidemment, il va 10 fois moins vite que le TGV, parce qu'il fait 30 km/h de moyenne,
mais
il traverse.
Pas d'aller vite.
Ouais, exactement. Il traverse des paysages absolument sublimes au départ de la ville de Villefranche de Conflans. C'est pas très loin de chez Calice. Hein, et il va jusqu'à la Tour de Carole, à la frontière espagnole. Il traverse des paysages absolument sublimes. Ça fait que 62 km de ligne, c'est pas beaucoup. Mais c'est un train à l'ancienne. Les habitants locaux, ils sont très attachés parce que toute leur histoire est aussi dépendante de ce train qui a désenclavé la région. On traverse des gorges de la tête, en corniche. Et quand vu d'en haut, on croirait vraiment un ruban jaune qui serpente de village en village. C'est vraiment superbe.
Ouais, c'est une chouette balade.
C'est une chouette balade. Et je pense que vous connaissez la gare de Bolker. Il fait un petit arrêt à Bolker. C'est la plus haute gare de France, exploitée par la SNCF à 1580 mètres d'altitude. Donc vous voyez un petit peu le côté à la fois, on change d'époque, on change de siècle avec ce train et j'adore ça.
Ce qui est marrant,
aussi.
C'est que quand on dit la gare la plus haute de France, on se dit on va être à 3000 mètres. Non, 1500 mètres.
C'est déjà pas mal.
C'est pas non plus
c'est pas le Pérou, quoi.
Sachant qu'on commençait à, je crois, à 300 mètres d'altitude. Donc, oui, le train a monté 1200 mètres.
Voilà.
C'est incroyable.
Ça. C'est le dénivelé.
Le dénivelé est vraiment impressionnant. Voilà. Et puis, on a cette atmosphère dans ces gares, un peu de train à l'ancienne. C'est génial. Voilà, on s'attend à voir le chef de gare sortir avec son képi. Voilà. Enfin, bref, c'est toute une ambiance. C'est un voyage dans le
bistrot de la gare.
Le bistrot de la gare. Voilà. Toute une ambiance.
Et alors, dans la vallée de la Tête, il y a des sites naturels hyper intéressants.
Il y en a un très particulier au niveau géologique, c'est les orgues d'Isle-sur-Tête. Ouais. Voilà, c'est un site qui, on se croirait un petit peu dans un parc naturel américain, en miniature évidemment, ou alors en Cappadoce pour ceux qui sont nés dans le centre de la Turquie, c'est les cheminées de fées, vous voyez, ces espèces de colonnes de calcaire qui ont été façonnées par l'érosion, qui ont été sculptées, ciselées après des millions d'années de pluie.
Avec des gens qui habitent dedans ?
Non, là c'est pas troglodytique, c'est pas des grottes, c'est vraiment un spectacle naturel, on y va juste pour ça, et de la route on devine absolument rien, donc on marche une quinzaine de minutes, on tombe devant ces espèces de colonnes qui font quand même une quinzaine de mètres de haut, c'est vraiment très spectaculaire, on dirait vraiment des grandes orgues, voilà, je ne peux pas les dire autre chose, c'est pour ça qu'on appelle ça les orgues d'Isle-sur-Tête. Et c'est vraiment un site géologique très particulier auquel aussi les gens des Pyrénées-Orientales sont très attachés également. C'est un site qu'ils recommandent. Voilà.
Mm-hmm. Et côté culture ?
On a parlé de Céret, qui est la capitale de la cerise, mais il y a aussi un autre particularité très culturelle à Céret, c'est que c'est un espèce de Montmartre à la montagne. Je vais vous dire pourquoi. C'est la capitale du cubisme. Céret a attiré la fine fleur des artistes dans la première moitié du XXe siècle, dont notamment un certain Picasso, figurez-vous. Ouais. Un certain Picasso qui venait là, voilà, parce que ça, la ville lui donnait de l'inspiration. Un certain Braque aussi, hein, ouais. C'était de la bande de potes en fait. Hein. Ils venaient tous là pour s'inspirer.
Matisse, Jacob,
ils venaient là pour faire la fête, s'inspirer, peindre, sculpter, etc. Et aujourd'hui, il y a un très beau musée d'art moderne dans ce petit bourg complètement perdu dans la montagne. Un excellent musée d'art moderne dans lequel on peut voir des céramiques de Picasso, des céramiques qui représentent des scènes de tauromachie qui font aussi partie de la culture catalane.
Et alors, il y a une réserve sous-marine extraordinaire près de Banyuls dont il faut que vous parliez.
Oui,
vous avez le droit aujourd'hui
alors
de parler de plongée.
Voilà, on va se lâcher un peu sur la plongée. Il y a un sentier sous-marin qui a été aménagé dans cette réserve. Et avec palmas et tuba, on peut faire sur 500 mètres on peut longer la côte en toute sécurité et avoir des tas d'explications avec des bouées qui sont sur place qui vous expliquent un petit peu ce que vous voyez sous l'eau. Bah, les posidonies, les galets, les poissons, etc. À faire absolument quand on est du côté de Banyuls Cerber.
Très bien. Merci beaucoup Jean-Bernard Carrier. Dans un petit instant, après le flash de 17h sur Europe 1, nous ferons donc ce voyage immense vers ce pays que certains appellent la dernière frontière. Nous irons sur une des terres les plus reculées de la planète, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Prenez une bonne valise, un caouet parce que c'est humide, et des vêtements pour le chaud et pour le froid, parce que ça monte aussi haut en altitude, il faut partir bien équipé là-bas. Mais c'est un super voyage. A tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.